C'est l'heure de l'émission au dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Deux thèmes dans Dialogue entre Congolais ce soir, détérioration de la situation sécuritaire Nord Kivu. La société civile de cette province dénonce la stratégie actuelle dans la traque contre les FDLR. Situation sécuritaire en province orientale, c'est le second sujet. Selon la société civile de Dungu, la LRA demeure une menace pour la population de cette partie du pays. Nous recevons comme invité sur ce téléphone Lambert Mende, ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement central, Raymond Ramazani Baya, sénateur MLC et élu de la province orientale, et Madame Solange Moulingania, rapporteur de la société civile du Sud Kivu et membre du réseau de la réforme du secteur sécuritaire des acteurs de la société civile. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Monsieur le ministre Lambert Mende, Raymond Ramazani Baya, sénateur, et Madame Solange Moulingania, vous êtes en ligne. Allô?
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Bonsoir, donc vous êtes bien en ligne, j'espère aussi pour le ministre et le sénateur. Voilà, on me signale que le ministre n'est pas encore en ligne, et on va démarrer cette émission avec ce premier thème, détérioration de la situation sécuritaire Nord Kivu. La société civile de cette province dénonce la stratégie actuelle dans la traque contre les FDLR. Que reproche exactement cette société civile dans cette traque? Notez que la société civile du Nord Kivu a fait cette déclaration hier lundi à Goma. Cette détérioration de la situation sécuritaire, la coordination de la dite société civile dit l'avoir observé depuis des opérations de traque contre les FDLR, d'où sa recommandation au gouvernement central de planifier ces opérations de manière, selon elle, à disperser, à éviter la dispersion des FDLR dans les forêts. Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu, exprime ses préoccupations au micro de notre consoeur Sifa Maguru.
Nous nous sommes rendus compte que les affrontements qui sont menés sur le terrain ne sont pas en train d'aboutir à des résultats souhaités et des résultats attendus tels que le gouvernement et la population congolaise le souhaitent actuellement. Tout d'abord, nous voulons que les affrontements qui sont planifiés contre les FDLR soient faits de sorte que ces affrontements amènent les FDLR à s'orienter vers les camps de la Monique pour être rapatriés. Nous nous sommes rendus compte qu'on est en train d'attaquer les FDLR. L'air de les disperser un peu plus loin dans les forêts, et lorsque ils vont dans les forêts, ils deviennent davantage beaucoup plus agressifs.
Voilà. Alors, première réaction, c'est avec vous, Madame Solange Moulingania. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Monsieur Jason Luneno? C'est votre collègue.
Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Je commence par saluer nos auditeurs. Et tout ce qu'il a dit, je trouve que sa préoccupation était fondée. Et nous signalons que vers le Grand Nord, c'est-à-dire vers le Rofu, Kasiki, vers Liké, vers Bukari, vers Katoï, il y a eu vraiment des attaques qui n'ont pas permis à la population même de comprendre après qu'ils ont eu un cycle d'espoir, ils se sont vus attaquer, piller et même tuer. Et cela fait horreur. Nous trouvons que la situation ne fait que se dégrader. Justement, la population ne saurait même pas exprimer ni confirmer si les attaques étaient fait par les FDLR ou bien par les FRDC. Parce qu'au niveau de Minova, la population s'inquiète parce qu'ils sont en train de se tuer par certains éléments des FRDC et vers l'Ouest, ce sont les éléments FDLR. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? C'est-à-dire, je réponds par une autre question. C'est la problématique critique de la situation sécuritaire est en train de se dégrader Et ça, c'est un problème sérieux. Et la population du Nord vit dans une très grande souffrance.
Voilà. La population...
C'est ça ma réaction.
Oui, c'est ça votre réaction. Mais vous êtes membre du réseau de la réforme du secteur sécuritaire. C'est surtout par rapport à ça que nous vous invitons. Est-ce que vous avez aussi quelque chose à dire par rapport à la stratégie que le gouvernement utilise dans la traque d'FDLR actuellement?
Merci bien.
Très rapidement,
oui, je salue l'initiative du gouvernement, mais nous trouvons qu'il y a des failles. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas pris des mesures, des mécanismes avant de lancer l'opération, même pendant l'opération et après l'opération. Je vais m'expliquer en fait.
Très rapidement.
Avant l'opération, la population n'était pas informée sur ce qui allait se faire. Pendant l'opération, nous avons vu une lueur d'espoir sur les actions et nous avons cru, nous en tant que population, qu'il y avait une accalmie.
Oui.
Mais faute des mécanismes d'après l'opération, nous trouvons qu'il y a dispersion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mesures d'encadrement de la population, ni de mesures d'encadrement des FDLR.
Jusque
là, les camps de conduite, où devaient se retrouver les FDLR pour rentrer chez eux, étaient actifs au moment où il y avait ça. Et maintenant, les FDLR rentrent pour se positionner.
Voilà.
Et cela, nous pouvons dire, nous devons développer des mécanismes plus solides, c'est-à-dire, nous devons nous mettre et voir qu'est-ce que nous pouvons faire, société civile, gouvernement, pour que nous puissions dégager une ligne de conduite de courage vivre, afin de ne plus retomber dans la situation de guerre, dans laquelle nous nous trouvons maintenant.
Voilà. Madame Solange, la réalisation me signale que le ministre, Lambert Mende, vient de nous rejoindre dans ce débat. Bien sûr, Raymond Ramazani est déjà là. Mais d'abord avec vous, M. Lambert Mende, parce que c'est à vous que c'est adressé directement, Mme Solange. Est-ce que vous pouvez lui répondre?
Je voudrais d'abord dire que nous comprenons parfaitement les inquiétudes qu'expriment nos populations qui sont sur le terrain, que s'agissant des représentants de la société civile comme Madame, qui participent avec nous à la gestion de cette situation, nous souhaiterions conseiller un peu moins d'émotion, un peu plus de sang-froid devant des événements graves qui nécessitent réellement beaucoup d'expertise. Il n'est pas possible tout simplement qu'un gouvernement responsable, qu'une armée professionnelle, se mette à distribuer des informations à la population, c'est-à-dire aussi à l'ennemi, sur une opération militaire qui cible un ennemi. Autant informer l'ennemi et lui dire de prendre ses dispositions. Donc le facteur surprise nécessite parfois que les opérations soient le plus discrètes possible. Ça, il faut le comprendre.
Par rapport à la préoccupation, monsieur le ministre, de Jason Lumeno, de la société civile du Nord Kivu, lui, il pense que la stratégie actuelle, en fait, ne permet pas aux FDLR d'aller vers les centres de désarmement. Ils sont dispersés vers les forêts. Est-ce que c'est une bonne stratégie, selon vous?
Non, je pense qu'il ne faut pas gratifier les FDLR d'une telle bonne foi qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent bien leur en faire gratification. Les FDLR ne sont pas de bonne volonté. Nous avons donné aux FDLR, et M. Lounen, on le sait, parce qu'il suit cette situation de très près, je le sais, et je l'en suis fort gré, que nous avons donné plusieurs mois, même des années, plusieurs semaines, aux FDLR pour rejoindre les centres de regroupement qui devaient précéder leur rapatriement dans leur pays. Ils ont, pour la plupart, posé ce geste. Ceux-là sont aujourd'hui dans leur pays. Mais ici, nous sommes en train de nous confronter aux réfractaires. Donc il ne faut pas faire semblant qu'il y a des FDLR qui sont de bonne volonté, qui sont encore au Kivu. Ce sont des FDLR réfractaires au rapatriement et au désarmement auxquels nous avons à faire face. Et nous appliquons la méthode forte parce que nous n'avons pas d'autre alternative. Vous pensez bien que quelqu'un qui a une arme, qui refuse de répondre aux injonctions de l'autorité du pays qui l'a accueilli, on ne va pas continuellement jusqu'à la fin des temps, continuer à le supplier pendant qu'il tue nos populations. Donc ce sont des mesures de coercition qui sont en train d'être prises, et ce n'est pas sur leur bonne volonté que l'on compte. Cette phase-là est dépassée. Maintenant, c'est la force de la loi qui s'impose, et l'air de l'air tuait avant que nous ne prenions ces mesures de coercition, tout comme il tue après ces mesures, on ne peut pas dire que c'est à cause de ces mesures que l'air de l'air tue. Nous sommes en train de nous confronter à eux parce qu'ils tuaient nos populations. Il ne faut jamais inverser les responsabilités et faire croire que c'est l'armée qui est aujourd'hui responsable de ce que de leur fond, comme si l'armée est venue s'amuser à changer une situation qui était plaisante pour nos populations nord-kivu.
Alors, il y a Junior Mousseke qui nous écrit, il est coordonnateur du projet Parlement d'enfants du nord-kivu. Il pense que le gouvernement devrait revoir sa stratégie dans la traque contre les FDLR, dans la mesure où elle pousse beaucoup d'enfants et jeunes à quitter leur village, leur privant ainsi leur droit à l'éducation, en les exposant au recrutement forcé par ces éléments FDLR. Vraiment, Ramazan Ibaya, monsieur le sénateur, en effet, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Vous avez suivi les interventions du ministre Amber Mende et Mme Solange Moulingania par rapport à la stratégie du gouvernement dans la traque des FDLR. Monsieur le sénateur?
Je suis d'abord très heureux que le ministre Lambert Mende, comme porte-parole du gouvernement, ait accepté de participer à ce débat, parce que c'est une question importante qui concerne toute la population congolaise et pas simplement les régions qui sont concernées par ces troubles.
Comme d'habitude, hein, il accepte sans problème.
Je pense qu'il faut aborder la question de façon aussi sereine que possible, et je le ferai sans esprit partisan. En gros, je partage un peu les inquiétudes exprimées par la société civile, du Nord-Kivu, parce qu'on ne peut pas rester indifférent devant tant de détresse. Il y a des morts, il y a des milliers de personnes qui sont déplacées, on parle de près de 100 000 personnes. Donc, pour les gens qui vivent cette situation, il est difficile, comme le demande le ministre Mende, de ne pas avoir de l'émotion. Nécessairement, ces gens vivent une situation de détresse qui, naturellement, s'exprime à travers leurs sentiments de détresse et d'émotion. Moi, je la comprends parfaitement. Et je ne reproche pas au gouvernement ni aux troupes de lancer des offensives contre les FDLR. Au contraire, je les en félicite. Mais ce qu'on peut leur reprocher, c'est le manque d'anticipation. Parce qu'on devait savoir, bien avant de lancer des opérations conjointes avec le Rwanda, que les éléments des FDLR allaient entrer plus en profondeur dans les territoires congolais et allaient rencontrer sur leur route des populations civiles complètement désarmées. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Donc vous avez dit que les autorités congolaises...
Le gouvernement est quelque part un peu à la Monique aussi. C'est de manquer cette anticipation qui aurait dû prévoir des mesures de protection de la population civile. C'est ça le problème essentiel. Mais d'autre part, je reste conscient du manque de moyens tout à fait criants. Enfin, le ministre ne le dira pas, et je le comprends, mais c'est la réalité. L'armée est complètement dénuée de moyens. Donc, une raison de plus d'avoir une stratégie claire, non seulement d'attaque contre les FDLR, mais également de la protection des populations civiles en coopération avec la MONUC. La MONUC a quand même des moyens qu'il faut arriver à mobiliser.
Voilà.
Donc, mon point de vue est que s'il y a une responsabilité du gouvernement, c'est surtout à travers le manque d'anticipation dont il a fait preuve. Et là, ces opérations contre les FDLR, c'est tout à fait normal. Il a pris des méthodes fortes, j'applaudis, mais il faut, à chaque instant, avoir à l'esprit les dangers que court la population.
Voilà, c'est un manque d'anticipation. Monsieur le ministre Lambert Mende va répondre. Mais rappelons d'abord le sujet des attaques des FDLR. Nord-Kivu, le HCR se dit de plus en plus préoccupé face à la dégradation de la situation humanitaire dans l'est de la RDC, alors que des civils congolais continuent de fuir leurs maisons par crainte des attaques des représailles de la milice rebelle Hutu, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à plus de 100 000 personnes déplacées par ces raids durant les deux derniers mois. Le HCR rappelle les dernières attaques des FDLR dans le village de Luofo, situé à environ 170 km de Goma. Les rebelles des FDLR ont déjà attaqué Luofo et Kasiki le 17 et 18 avril, tuant plusieurs personnes, notamment des enfants, et brûlant plus de 365 maisons. La population de Luofo refuse de quitter le village et a demandé une protection et une assistance humanitaire. Alors, monsieur le ministre, le gouvernement apporte-t-il la protection qu'il faut à cette population, notamment de l'OFO?
Je pense que, comme l'a dit le sénateur, je vais le surprendre, je suis d'accord avec lui. Nous avons effectivement un problème de moyens, mais qui ne se pose pas aux forces armées de la République. J'ai sous les yeux une dépêche de monsieur le représentant spécial du secrétaire général qui effectivement lançait un véritable SOS en direction de New York pour dire que la MONUC se trouve en sérieuse difficulté de pouvoir soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo du fait d'un déficit logistique. Et il parlait d'hélicoptères, je crois qu'il estimait à une vingtaine le nombre d'hélicoptères qui doivent être mis à disposition dans ces zones montagneuses. Donc, quels que soient les moyens dont la MONUC a été pourvue, on se rend compte que la tâche est immense et que FARDC et MONUC, plutôt que de parler d'anticipation, se trouvent dans une situation d'urgence. Ce n'est pas les FARDC et la MONUC qui ont choisi le moment ou le terrain. C'est l'ennemi qui a choisi le terrain et le moment. C'est l'ennemi qui tuait nos populations. Il fallait, quels que soient les moyens à disposition, répondre à cette agression de rebelles rwandais contre nos populations. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le jeune qui parle au nom des enfants doit retenir que si les enfants sont poussés dans la forêt, ce n'est pas par les FARDC. C'est extrêmement dangereux cette tendance-là de considérer ceux qui viennent au secours des populations comme si c'est eux qui sont la cause des malheurs de la population. Les militaires ne sont pas là en promenade. Les militaires sont là parce que la population souffrait dans les mains des FDLR. Sauf à nous dire que nous nous sommes trompés d'ennemis, que les FDLR font du bien à la population et que nous sommes là tombés avec notre armée comme un cheveu dans la soupe. Je pense également que, s'agissant de l'émotion, je prends acte du conseil de l'honorable sénateur, ce que je pense c'est que l'émotion c'est bien. Ceux qui vivent ces événements et pour lesquels nous exprimons toute notre sympathie doivent éprouver de l'émotion. Mais je parle ici des éléments de la société civile qui participent à la gestion du problème. Oui. On a présenté une dame dans la coordination de la réforme du secteur de la sécurité. Oui. Là, on ne peut plus faire de l'émotion. Là, il faut du sang-froid. Oui. C'est ce que j'ai voulu dire, mais je comprends, que les gens soient émus.
Ouais, elle est là avec nous, hein, Madame Courage Moulinganya, elle va répondre. Malheureusement, la MONUC n'est pas là pour répondre parce qu'elle a été citée. Mais Madame Solange Moulinganya, oui, allez-y, en une minute, qu'est-ce que vous pouvez dire pour qu'on, avant qu'on mette fin à cette première partie de l'émission?
Oui, je suis ravie de voir que nous parlons et nous émettons sur la même longueur d'onde avec le ministre, devient majeur, énorme et capital, c'est-à-dire nous tous, nous sommes en train de converger dans la même direction. Donc, il y a un grand problème, c'est-à-dire le problème de nous, population, nous nous demandons, après les opérations, nous retrouvons que les FDLR sont en train d'occuper leurs anciennes positions. Et c'est ça la grande préoccupation de la population. Quand monsieur le ministre nous dit que les FARDC sont là pour notre bien, oui, c'est vrai, ils sont là pour notre bien, mais pourquoi les FDLR reviennent sur leur position de départ? Et c'est là la crainte que nous avons comme population.
Oui, Madame Solange, excusez-moi, il y a le sénateur Raymond Ramazani Baya, lui qui a conseillé un peu plus d'anticipation du côté conseiller au gouvernement et à la MONUC. Qu'est-ce que vous allez conseiller? Vous avez déjà dit qu'il fallait changer de stratégie, de mécanisme dans cette opération. Est-ce que vous avez autre chose à conseiller?
Je dirais que le gouvernement doit aider, doit plus fournir des efforts auprès des FARDC pour que la mission conjointe MONUC et FARDC soit de plus en plus efficace. Et nous savons que les FARDC sont sont pas, comme il a dit, la conjoncture économique ne permet pas de régner toutes les conditions, mais toutes les conditions, mais nous trouvons que les FRDC doivent être bien équipés afin de se sentir à mesure et capable de faire face en compagnie avec la MONUC, c'est-à-dire la mission conjointe, pour qu'ils puissent mettre à côté les FDLR pour les pousser à rentrer au lieu de les disperser dans les forêts pour qu'après ils puissent revenir.
Voilà.
C'est ça les conseils.
Voilà, on va terminer puisque vous avez évoqué la question des moyens des FARDC dans cette opération conjointe avec la MOHUC. Il y a Honor Kivu, justement, le président de l'Assemblée provinciale, lui, il dénonce le détournement de la solde des militaires par certains de leurs responsables. Il l'a dit à l'occasion de l'ouverture officielle de la session extraordinaire d'avril, hier lundi, dans la salle de réunion à la BDGL. L'honorable Barianga affirme que si les militaires vivent sur le dos de la population, c'est parce que leur solde ne leur parvient pas, car détourné, d'après lui, par leur commandant. Monsieur le ministre Lambert Mende, on va terminer par là en une minute. Comment pouvez-vous expliquer une telle situation? Au même moment, les FARDC ne réunissent pas tous les moyens nécessaires, mais le peu qu'il y a, s'il est détourné, comment est-ce que les FARDC vont être efficaces?
Mais j'espère que le président de l'Assemblée nationale peut
l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale.
Le président provincial, excusez-moi.
Oui. Oui.
Ce que je sais, c'est que nous avons une situation qui a été assez chahutée, parce que depuis 3 mois, les nouvelles recrues, ceux qui sont venus des groupes armés, qui sont intégrés avec leurs camarades, ne percevaient pas leur solde naturellement, puisque l'état-major attendait la fin de l'opération d'intégration. Là, il y avait des rumeurs, des mouvements de mécontentement, mais les anciens militaires percevaient normalement leur solde. J'espère qu'il n'a pas pris ce mécontentement des nouveaux éléments pour extrapoler à l'ensemble de l'armée, ce qui serait grave pour quand même une autorité de ce niveau-là. Je souhaite quand même, avant de vous rendre l'antenne, dire que les militaires, les gens de FDLR n'occupent pas leurs anciennes positions. Ils attaquent leurs anciennes positions et ils fuient parce que l'armée répond. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de localités qui sont comme Lusamambo, qu'ils ont attaqué, Mpinga, Nyabiondo, Ombo, Kibua, qui ont été attaqués, mais qui ont été repris automatiquement, immédiatement après, par les forces armées. Donc, les forces armées font leur travail, les autres font ce qu'on appelle hit and run, ils frappent et s'enfuient. Mais c'est tout à fait, disons, de bonne guerre de la part de bandits qui veulent faire échouer une opération qui doit sécuriser leurs victimes.
Merci. On va terminer par vous, hein, Raymond Ramazani Baya, et on va vraiment boucler ce premier sujet. En une minute, hein, Raymond Ramazani Baya. Ramazani Baya.
Mais écoutez, moi, je pense... Non, j'ai dit que c'était une situation difficile et fondamentalement, il y a un problème de moyens. Et je pense que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a eu beaucoup de courage et c'est une très bonne chose de dénoncer les détournements de moyens de solde militaire. Ça ne m'étonne pas parce que c'est une situation qui est connue. On va nous demander évidemment de donner des preuves. C'est difficile de donner des preuves, mais c'est une situation qui est connue. Et puis, il faut souligner aussi la rémunération particulièrement faible de nos militaires qui ne les motive pas suffisamment. Donc, il y a un effort à faire de ce côté-là. En plus, il y a des situations de paye qui arrivent tardivement, ça a été dénoncé dans la presse. Tout ça, ce n'est pas normal. Ça fait que l'armée est complètement démotivée. Partout où elle réussit à faire quelques prouesses, c'est parce qu'il y a les soutiens logistiques de la MONUC qui apporte même le produit alimentaire pour le militaire. Tout ça, ce n'est pas très normal. Je pense que le pays devrait être mobilisé complètement dans ces situations de guerre à l'Est. Et il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Le gouvernement, je dis le gouvernement de façon très claire, comme la MONUC n'ont pas vraiment pris la mesure de la situation, de la gravité de la situation à l'Est, et ça, ce n'est pas bon.
Voilà. Après le Nord Kivu, situation sécuritaire en province orientale, selon la société civile de Dungu, la MRA demeure une menace pour la population de cette partie du pays. On en parle tout de suite, mais c'est après ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
La LRA demeure une menace pour la population de Dungu. Nous sommes en province orientale. Pourquoi ces rebelles ougandais représentent-ils une menace après l'opération conjointe FARDC et l'armée ougandaise? Avant d'ouvrir le débat sur ce sujet, signalons que cette information sur la menace justement que représente encore la LRA pour les populations congolaises débat et autourné membre de la société civile de Dungu, c'est en province orientale. Selon l'abbé Benoît Kilalego, président de la société civile de Dungu, les autorités doivent déployer un grand nombre de policiers pour protéger la population des exactions de la LRA. On écoute l'abbé Benoît Kilalego, président de la société civile de Dungu, au téléphone de Kélinkouté.
La LRA constitue encore un danger dans la région pour la population locale.
Comment ça?
Les attaques de la LRA se multiplient dans différentes localités dans la région.
Est-ce que la population a peur pour vous dire qu'ils sont agressés ou attaqués par la LRA?
Tout à fait. La population a peur, d'autant plus que nous gardons encore les mêmes chiffres ou plus aussi des déplacés qui ne sont pas encore retournés chez eux.
Il y a combien de déplacés, en fait?
Pour le moment, dans la région, territoire de Dungu, y compris aussi territoire de Faradje, nous avons environ 116 000 déplacés. Et dans les Bazouélé, nous avons environ 13 000 déplacés. Et jusque là, dans les chefs-lieux du pays de Haute-Ouélé, nous avons encore 2 000 déplacés.
Selon le porte-parole du gouvernement central, dans une déclaration sur nos antennes, il dit qu'il reste plus que 150 LRA et aussi ces gens qui commettent ces exactions ou ces attaques, ce sont plutôt des gens qui se font passer pour la LRA et ce ne sont pas des vrais combattants LRA. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, qu'il faudrait éviter de faire la démagogie lorsque les gens sont tentés de mourir et de souffrir. Il faudrait éviter de politiser l'assassinat de la population congolaise. Personne n'a été en brousse pour faire le recensement de la LRA dans la brousse pour dire qu'aujourd'hui, le chiffre exact de la LRA est de 150. Personne ne sait. Tout est lors des dernières attaques à Banda, dans le Bazouélé. On a parlé de l'incursion de 200 éléments. Et dernièrement, c'était à Douma, du côté de Dangala, il y a eu 46 éléments. Et dernièrement aussi, et il n'y a pas deux jours, on a attaqué une Banda. Ce n'était pas moins de 30. Et lorsqu'on fait la comptabilité, et on pense qu'ils ont leur base, je pense qu'ils sont plus que ces chiffres là-bas. Et que nous ne pouvons pas dire que camoufler la présence d'un étranger sur notre territoire.
Évidemment, du côté des autorités provinciales, province orientale, ces autorités, confirment ce qu'a dit la société civile de Dungu. Donc la LRA, pour ces autorités, constitue toujours une menace pour la population de la province orientale. Propos du vice-gouverneur de cette province, Joseph Bangakia, il justifie cette situation par l'immensité du territoire sur lequel circulent les éléments de la LRA, territoire difficile d'accès. Selon le vice-gouverneur, cette situation prendra du temps, mais ce temps peut être raccourci s'il y a d'importants moyens militaires en hommes, en équipement et en renseignement. Raymond Ramazani Baya, votre avis là-dessus? Sénateur?
Écoutez, moi je rappelle la situation, je cite la situation de Bazouélé, du Haut-Ouélé de ses frères. Donc, je ne peux que confirmer ce qui vient d'être dit par le membre de la société civile de Dungu. Mmh. Et c'est un homme très mesuré par rapport à la réalité des choses, parce que en réalité, les déplacements, rien que le personnes déplacées, approche les 100 000 déjà dans les bas et l'autre où elle est réunie. Et quand vous prenez une petite ville, là, actuellement, il y a près de 10 000 déplacés qui sont à Dungu. Sont là, je crois, aux alentours du 20 mars jusqu'à ce jour, ils n'ont reçu absolument aucune aide, aucune assistance humanitaire de qui que ce soit. Il y a peut-être un retard qui, de temps en temps, tourne par là, mais ni le gouvernement central, ni le gouvernement provincial, jusqu'à présent, n'ont envoyé un délégué à Dungu, même pas à Bouta. Je sais qu'au lendemain de la question orale que j'ai posée au ministre de la Défense, qui, heureusement, a eu le mérite de ne pas faire montre de triomphalisme, parce que la situation est quand même assez difficile, il l'a reconnu. Le lendemain de cette interpellation, il y a eu 36 militaires qui ont été envoyés de Bouta à Dungu. Tenez-vous bien, ils ont été envoyés à pied pour faire 300 km. Et pratiquement sans provision. Alors imaginez-vous ce qui s'est passé, ils ont érigé des barrages partout. Ils ont vécu sur la population. Ce que j'ai dit en ce qui concerne le Nord Kivu, il y a un manque de moyens criants au niveau de l'armée. Et là, même s'ils n'ont pas assez d'hommes, ils ont des moyens. je pense que le gouvernement devrait mieux négocier avec la MONUC pour que quand même quelques moyens qui sont disponibles puissent être orientés assez rapidement vers les zones qui sont en détresse. Il ne manque pas de moyens au niveau de la MONUC, il manque des hommes, il y a quand même des moyens, il y a des avions. Et je n'explique pas que depuis 17 mars jusqu'à ce jour, on n'ait pas vu une assistance quelconque des éléments de la MONUC arriver à Banda, arriver à Dingila, arriver dans l'État de qui est quand même un immense territoire, les gens se plaignent, les gens meurent, et personne ne bouge. Il y a eu la peur extrême, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de la MONUC, pour intervenir, pendant que les gens sont en train de souffrir. C'est vrai que les bases de LRA ont été démantelées, mais parce que ces bases ont été démantelées, parce que ces éléments ont été affaiblis, ils deviennent d'autant plus dangereux. C'est pour ça que je parle d'absence d'anticipation. Vous parlez de stratégie, moi je dis absence de stratégie. Parce que le minimum de stratégie aurait dû consister à mettre en place un dispositif qui devrait permettre la protection des populations civiles. Le ministre a dit que c'est pas nous qui choisissons le moment.
Oui.
J'ai dit non, c'est nous qui avions choisi le moment, parce que c'est nous qui avions appelé les troupes étrangères pour intervenir. Une fois qu'elles sont là, donc c'est nous qui avons choisi le moment de déclencher l'offensive. Nous devrions estimer et évaluer les conséquences. On n'a pas fait suffisamment. Je suis désolé, c'est ça la réalité.
Voilà.
Je ne veux pas attendre le gouvernement autour des yeux, mais ça c'est la réalité et la population aujourd'hui subit les conséquences de ce manque d'anticipation.
Monsieur le ministre Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement central.
Oui, je sais très bien que nous sommes là dans une tragédie humaine et que nous compatissons avec les populations, mais il faut toujours décrire la situation telle qu'elle se présente. Il ne faut pas que l'on se mette à distribuer des épithètes peu flatteuses. J'entends un abbé, un prêtre de surcroît, qui qualifie le porte-parole du gouvernement de démagogue. Est-ce que c'est des choses qu'on doit dire dans une émission comme celle-ci? Non, je dis, je n'accepte pas ça. Nous avons peut-être peu de moyens militaires à déployer. Nous n'avons pas encore suffisamment déployé la police dans le Haut-Ouélé, mais s'agissant de moyens en renseignement, en dispositif d'alerte, je pense que nous avons mis en place un système qui nous permet de suivre au jour le jour et pratiquement partout tout ce qui se passe. Et je confirme que lorsqu'on nous parle de Banda, 200 éléments, j'aimais bien quand l'abbé parle d'éléments sans les qualifier. Telle localité 46, tel endroit 30, c'est bien.
C'est plus
ce sont
temps.
Des éléments, c'est des gens qui attaquent les populations, mais ce ne sont pas des LRA, c'est pas des Ougandais.
Qu'est-ce qui vous
pour la plupart des Congolais qui se font passer pour des LRA.
Qu'est-ce qui vous prouve
pour avoir arrêté? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas faire confiance aux technostructures du gouvernement? Il y a des malins, des Congolais comme vous, comme moi, qui profitent de ces tristes événements pour aller arnaquer leurs propres frères.
Monsieur le ministre,
nous le savons, nous le disons, et il ne faut pas que les gens donnent l'impression que ça les arrange, que ce soit LRA ou quoi. LRA, grâce à nos systèmes de renseignement, c'est la pression que nous avons mise sur eux. Aujourd'hui, comme l'a dit l'honorable sénateur, leurs principales bases ont été éradiquées. La plupart d'entre eux sont soit au Sud-Soudan, on les a vu traverser, soit en République centrafricaine. Il y a même une réunion avec le ministre centrafricain de la Défense la semaine prochaine pour gérer ces problèmes-là et échanger des renseignements avec lui. Donc il ne faut pas prétendre que puisqu'il y a 200 personnes qui ont attaqué un village, tous les 200, ce sont des LRA et des Ougandais. Nous avons un problème avec un banditisme qui se développe là-bas, comme d'ailleurs au Nord-Kivu. On a vu aussi des Congolais faire le coup de feu au Nord-Kivu. Le CNDP, c'était pas autrement. Et qui s'habille de l'habit de LRA. Donc le problème pour nous maintenant, c'est de déployer des unités de la police, puisqu'il s'agit de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas faire la guerre à nos concitoyens. C'est la police qui est outillée, faire des enquêtes. Si on met les militaires là-dedans, ils vont rentrer dans des villages, dans des cases, et c'est ce que justement on aura des sénateurs craint. Ils ne sont pas outillés pour cela, et ils rentrent sur des gens. Donc c'est la police qui est en train d'être déployée maintenant, peut-être pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité en le comprenant, mais là nous retombons encore sur le problème de la logistique.
Monsieur le ministre Lambert Mende, vous insistez beaucoup sur ces Congolais qui se sont passés pour des LRA, mais finalement la population va se confier en qui? Parce que Joseph Mangakia, vice-gouverneur de la province orientale, lui persiste que la LRA constitue une menace. Mais à vous entendre parler, vous semblez minimiser.
Mon ami, moi je parle au nom d'un gouvernement qui détient les instruments pour collecter des renseignements. Vous ne pouvez quand même pas prétendre que le vice-gouverneur a plus de renseignements que nous.
Mais
je pense que nous avons des renseignements qui sont tout à fait, qui ont fait l'objet d'un cross-checking, qui ont été évalués, réévalués. Et ce que je vous dis, c'est la réalité. Il y a des compatriotes congolais que nous devons réprimer. Et il y a un travail à faire par le gouvernement provincial, par les leaders d'opinion. Heureusement que nous avons le sénateur avec nous et tous les députés qui sont de la région pour faire en sorte que ceci ne se passe pas, que des Congolais ne profitent pas de cela pour donner libre cours à leurs instincts, qu'ils vont piller leur frère, ils disent cela, elle ira, pour faire paniquer des gens, et qu'on puisse casser cette espèce de solidarité qui s'est installée de gré ou de force, je pense de force, entre certains de nos compatriotes et des gens de LRA qui récupèrent parfois les armes de LRA pour faire le coup de feu.
Merci.
LRA attaque une unité de notre armée,
merci.
Et lorsqu'on rétorque le coup de feu, on arrête des gens, on trouve que c'est des compatriotes. Nous devons le dire.
Voilà. Madame,
c'est ce que je vous dis par rapport à ça.
Voilà. Madame Solange Moulinganien.
Oui, merci bien. Je viens de suivre... Monsieur le ministre, je suis ravie, mais il y a une très grande crainte. La crainte est celle-ci. Les couches de résistance, les couches de résistance de la LRA sont en train de se disperser. Et quand ils sont dispersés, éparpillés vers le haut où elle est, vers le bas où elle est, nous trouvons qu'il y a un problème, surtout au niveau de notre jeunesse. Parce que quand la jeunesse de Bazoulé et Oulé ont remarqué qu'il n'y avait pas assez d'hommes militaires pour sécuriser, ils se sont constitués en local défense. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas encourager, mais je demande à notre gouvernement de voir des mécanismes, comment déployer d'urgence la police, pour voir comment ils peuvent sécuriser la population et voir comment ils peuvent mettre fin à cet éparpillement, si je peux le dire,
des éléments
de LRA.
Oui.
Et parlant de aide humanitaire, vraiment, il n'y a plus de déplacés. L'aide humanitaire est insuffisante, que ce soit en qualité et en quantité. Et je recommanderais aussi à notre gouvernement de voir comment est-ce qu'on peut créer un mécanisme d'urgence pour voir comment est-ce qu'on peut encadrer cette population au lieu de l'abandonner à leur propre sort.
Voilà.
Oui.
Voilà. Sur cette même menace que représente la LRA, Lola Kisanga, qui est sénateur RCD, élu de Haute-Ouélé, il s'exprime là-dessus.
Je partage le point de vue de la société civile de la province orientale au sujet de la menace que la LRA continue à faire peser sur la sécurité de la population du nord-est de la province. Mais je suis tout autant honnête de reconnaître que le travail réalisé par la coalition avec l'appui du gouvernement a réalisé des améliorations appréciables, mais qui certes ne sont pas suffisantes pour que nous puissions retrouver la paix dont la population a totalement besoin. J'insiste du fait que maintenant, il faille que le gouvernement puisse renforcer l'action de sécurisation de la population en couplant de l'action militaire et sécuritaire une action diplomatique internationale pour encourager la démarche des Nations Unies visant à obtenir la conclusion finalement d'un accord de paix entre Joseph Kony et le gouvernement de Kampala.
Voilà, je vais vous donner 40 secondes à chacun pour essayer de réagir par rapport à cette proposition du sénateur Lola Kisanga. Je commence par vous, Raymond Ramazani Bayard, vous êtes aussi sénateur, c'est votre collègue. Raymond Ramazani.
Eh bien, naturellement, oui, s'il y a des améliorations par-ci, par-là, mais moi je dis qu'en ce qui concerne les Bazoulés, la situation, depuis l'attaque contre les LRA, la situation s'est dégradée, s'est aggravée. À la suite de cette attaque, la situation s'est aggravée dans le Bazoulé.
Et il est important que le gouvernement puisse s'en occuper parce qu'il ne s'en occupe pas jusqu'à présent. Et il y a eu des combats il y a deux semaines ou deux semaines et demie. Un soldat, un officier ougandais est décédé à Banda. Parce qu'il est entré avec son contingent en contact avec des forces de LRA qui étaient bien présentes. Donc si le ministre nous dit que ce sont des Congolais qui mettent des tenues de LRA, il a raison qu'en partie. Mais ce que je peux lui dire, c'est que la stratégie de LRA consiste justement à recruter les Congolais. Quand ils arrivent dans une ville, comme c'était le cas à Banda, où ils ne trouvent aucune force qui leur résiste, eh bien, ils ont pris les otages, près de 600 personnes. Et sur les 600 personnes, ils ont pu intégrer dans leur rang plusieurs jeunes. Je crois une quarantaine de jeunes qu'ils ont intégrés dans leur rang. Cela veut dire que si nous ne faisons pas attention, les LRA sont en train de se renforcer. Et il y a même un risque sérieux qui reconstitue leur force et leur base. Je rappelle quand même que Kony était un des principaux, dont l'arrestation était un des principaux objectifs du gouvernement. Congolais comme Ougandais, pour toujours.
Alors,
il n'est pas au Congo, mais il n'a pas été arrêté. Donc ça pose quand même un problème. Et l'autre question que je pose pour
toi, très rapidement.
Fait appel aux troupes ougandaises, on n'a pas laissé les troupes ougandaises aller jusqu'au bout. D'autant que, apparemment, l'attitude de la population vis-à-vis de l'armée ougandaise était plutôt celle de confiance. Et la population n'a pas demandé qu'on puisse renvoyer les troupes ougandaises. Moi, je pense qu'on aurait dû, une fois qu'on les a appelés, les laisser terminer le travail ou arriver à neutraliser complètement les LRA avant de les laisser partir. Là aussi, je pense qu'il y a eu erreur de stratégie dans ces échanges.
Monsieur le ministre, vous allez répondre surtout par rapport à cette question des opérations avec la présence de l'armée ougandaise. Il y a Hiler Agenonga de Bunia qui demande qu'avec ce cri de détresse de Dungu, et il ajoute aussi le Nord Kivu, pourquoi doit-on parler de succès des opérations avec le Rwanda et l'Ouganda? Et prenons d'abord l'Ouganda parce que nous parlons de la LRA.
Je pense qu'il ne faut pas rester à l'événementiel. On a attaqué telle localité hier, il est mort 15 personnes, et on oublie les milliers de morts qu'on a pu empêcher pour après avoir démantelé tout le système offensif de LRA ou de FDLR au Nord Kivu. Donc il faut, comme le gouvernement, avoir une approche globale de ces questions-là. Il ne faut pas réagir par rapport à un détail. Nous, nous envisageons les choses globalement. Et s'agissant de la menace que LRA continue à faire peser sur la population,
oui,
nous l'avons évaluée avec même nos partenaires ougandais. Vous savez que les Ougandais continuent à nous assister avec les renseignements. C'est ça qui a été compris dans l'accord lorsqu'ils se sont retirés.
Mmh.
Et le soldat ou l'officier qui est tombé, dont l'honorable parle, c'est justement un des officiers de renseignement. Et donc, il était en mission de renseignement lorsqu'il est tombé dans une embuscade. Nous avons évalué, elle n'est plus une menace de type militaire.
Monsieur le ministre,
c'est très sincère pour nous, il faut le croire. Il n'y a pas plus de 150 combattants LRA en état de combattre sur le territoire congolais. Le gros est parti au Sud-Soudan, une autre partie en Centrafrique. Le reste, c'est du banditisme de nos compatriotes. Il faut qu'on le gère comme tel. C'est la police qui va y répondre. Donc, si déjà au niveau de notre armée, nous nous posons des questions sur la nécessité de déployer des régiments pour 150 gaillards, vous comprenez bien que la présence des Ougandais ne s'impose plus.
Merci.
Si nous parvenons à déployer la police correctement, ils vont répondre à ces bandits congolais qui s'agitent en faisant croire à leurs frères qu'ils sont LRA.
Voilà, on va conclure avec Madame Solange Moulinganya, peut-être pour essayer de répondre très rapidement à nos auditeurs. Il y a Jethro Yenga d'Ariwara, lui déclare l'échec de l'armée congolaise face à la LRA. Qu'est-ce que vous dites, Madame? Quelques 30 secondes.
Oui, merci bien. Nous ne pouvons pas parler de l'échec de l'armée congolaise, mais nous pouvons dire, comme l'a dit M. le gouverneur, qu'il y a un manque d'hommes militaires, c'est-à-dire le nombre d'hommes. Et aussi, nous devons aussi parler de la situation régionale, l'insécurité qu'il y a dans la province orientale à plusieurs formes, c'est-à-dire d'échanger d'aspect, parce que toujours l'intérêt qui est le pays
qui nous alentourent avaient sur le Congo, c'est-à-dire le minéré, est toujours là. Et nous devons plus développer des mécanismes de coopération, c'est-à-dire notre gouvernement doit faire beaucoup d'efforts pour renforcer la coopération
avec les pays voisins pour nous permettre de bien vivre ensemble. Merci, madame. C'est la fin de cette émission. Jean-Claude Serra est à la technique, réalisation de Guy Maté, Alain Rung et Samuel Kachak, sans oublier Kevin Koutek.